Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir dans Libre Propos, l'émission de Radio Rancière qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque, Mgr Philippe Christori, sur des sujets divers et variés. On a un menu assez chargé car au moment même où nous parlons, eh bien, Mgr, vous êtes déjà au Québec. Eh oui, c'est un... le miracle de la radio et de la diffusion différée. Mais avant de parler de ce grand voyage au Québec pour la fête de Saint-François de Laval, je voulais qu'on revienne sur la mort de Jacques Gaillot, évêque d'Évreux de 1982 à 1995, qui avait été démis de sa charge épiscopale par Jean-Paul II. Je voulais savoir quel bilan dresser pour cet évêque, pas comme les autres.
Oui, Jacques Gaillot est un homme. Moi, je me rappelle de son visage, très doux, avec des yeux bleus, des beaux yeux bleus. Je crois que c'est un homme qui a voulu, comme prêtre, servir les gens à la marge et se rapprocher des, le pape dirait aujourd'hui, les périphéries. Il avait un grand cœur pour ça. Ça l'a rendu célèbre, ça l'a rendu médiatique. Je pense qu'il en a usé. Et peut-être, j'oserais dire, un peu abusé, parce que il s'agit pas seulement de dire aux gens que Dieu les aime, ce qui est vrai, mais d'essayer d'exprimer un chemin d'exigence. Le Christ aime passionnément chacun de nous et l'a montré avec des pauvres, des lépreux, des gens rejetés par la société de l'époque. Mais en même temps, il a mis devant eux une véritable exigence, comme à la femme adultère qui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. » Et dans la vie du monde actuel, il faut aider chacun à entendre cette parole de miséricorde et d'amour du Christ, parce qu'elle est merveilleuse. Et en même temps, il y a un chemin du bien et un chemin du mal. Et il me semble que, si je me remémore quelques interviews que j'avais écoutées à l'époque, il y avait comme une confusion. On ne peut pas dire que tout est bien. Si on aime, tout est bien, non. Saint Augustin disait « aime et fais ce que tu veux ». Mais c'est une formule qui peut être manipulatrice si on ne la prend pas dans le sens de cet amour d'agapé tel que Dieu le veut, avec l'exigence de dire non au péché et au mal. Et ce qui est mal est mal. Par exemple, à l'époque, il me semble qu'il a pris le contre-pied de la position morale de l'Église sur la contraception, sur la vie sexuelle, notamment de jeunes, une vie sexuelle hors mariage. J'entends que des jeunes vivent ensemble avant le mariage. Souvent, ils diront « on ne fait rien de mal ». Mais l'acte qu'il pose ne correspond pas encore à un engagement absolu, définitif d'eux-mêmes. C'est plutôt un prêt, je te prête mon corps, Et Jacques Gaillot, à ce niveau-là, n'a pas eu, je pense, tout à fait la parole adaptée, ce qui fait que le pape Saint Jean-Paul II l'a relevé de ses fonctions. Après, il a œuvré encore pour notamment les sans-logis, le droit au logement... il a dû faire du bien, je pense, et je crois que Dieu reconnaîtra sa générosité et l'amour qu'il a voulu exprimer.
Oui, un bilan partagé, donc. Voyage à Québec pour la fête de Saint-François de Laval, avec qui le diocèse a d'importantes relations, finalement. Qui était Saint-François de Laval ?
Alors, Saint-François de Laval est né, il s'appelait François de Montmorency-Laval, il est né à Montigny-sur-Avre, c'est dans le nord-ouest du département d'Eure-et-Loir. Il est né le 30 avril 1623, donc ça fera 400 ans. C'est un homme d'une famille nombreuse. Je crois qu'ils sont 5 garçons, il y a 2 sœurs, 2 filles. Il va très vite choisir la vie consacrée, donc être prêtre. Il part chez les jésuites à La Flèche, puis il ira ensuite à Paris. À l'époque, il y a aussi un engouement pour le Tonkin, pour partir en mission lointaine, donc en Extrême-Orient. C'est son désir, mais en fait, il va être un peu repéré, notamment par Louis XIV, le roi Soleil. Et c'est le pape Alexandre VII qui va le nommer pour être au départ un peu administrateur, on peut dire, de toute cette nouvelle France qu'est la région de Québec-Montréal, qui est une région à l'époque totalement sauvage. On estime qu'il n'y a que 3000 habitants entre Québec et Montréal. Il y a en plus une pression des Anglais, qui sont beaucoup plus nombreux là-bas. Et donc, le roi veut qu'on implante aussi des lieux d'église pour prendre soin des gens. Donc, il choisit François de Laval. Et il va partir dans ces pays de trappeurs, de colons, où il y a aussi des Indiens. Il va tout de suite bâtir assez vite un séminaire. Alors un séminaire, c'est pas une grande maison, hein, c'est dans le presbytère de où il habite. Ensuite, il va construire une cathédrale, bien sûr, à Québec. Il va commencer à baptiser, notamment un premier enfant Huron et les Indiens de ce lieu-là. Il va aussi lutter âprement contre les trafics d'eau-de-vie, parce qu'en fait, les colons essaient de soudoyer les Indiens pour avoir des faveurs commerciales, notamment de peaux d'animaux, en leur troquant de l'eau de vie, qui effectivement est, entre guillemets, séduisante, mais qui abrutit les gens. Donc il va beaucoup lutter contre ça. Un homme qui va rester dans ce pays très longtemps, même à la fin de sa vie, il sera retraité, mais il va devoir reprendre encore du service. Il va vivre 85 ans, je pense, donc c'est une très longue vie pour l'époque. Faisant des voyages incroyables, parce que le territoire sur lequel il a établi son diocèse, le premier qui est là-bas, est plus grand que la France. Enfin, c'est un territoire immense. Le Québec, je vous rappelle, c'est trois fois la France.
Trois fois la France, oui.
Donc c'est vraiment une aventure par les fleuves en canot, par les routes enneigées l'hiver. Une aventure d'un prêtre. Oui. Alors, il était austère, dit-on, très spirituel, mais exigeant. Je pense qu'il le fallait pour tenir le coup. Mais c'est en tout cas le fondateur de l'église là-bas, où on trouve d'ailleurs l'université Laval. On trouve une ville qui s'appelle Laval. On trouve une paroisse, Saint-François de Laval aussi, à Québec. Donc, voilà, cette visite, on voulait la faire depuis longtemps. On a un bel accueil de Monseigneur Gérald de Cyprien Lacroix, qui est cardinal, qui est archevêque de Québec. On y va à 15, 16 même. Une petite délégation pour être auprès d'eux pour ces 400 ans.
Ouais. Alors, l'Église canadienne est un peu dans la tourmente depuis quelques temps. On voit que le président Justin Trudeau est à la manœuvre pour dénoncer de nombreuses affaires d'abus et de violences sur les enfants amérindiens, notamment dans des pensionnats catholiques. Voilà encore qui secoue hein, l'Église locale.
En fait, c'est une Église qui était très liée à la vie des gens. C'est-à-dire que quand le Canada se fonde et le Québec se fonde, l'Église est là pour les gens. C'est elle qui fonde les écoles, c'est elle qui fonde les hôpitaux, qui crée toute la structure, on peut dire, sociale. Et cette culture très rurale, catholique, familiale, traditionnelle, va être bouleversée il y a peut-être 30, 40, 50 ans, peut-être pas 50 ans, mais par la culture sécularisée américaine. Et bien sûr que ça va changer tous les rapports humains, une sorte de révolution en quelques années. Nous, on a fait ça depuis l'époque des Lumières, ça fait trois siècles que tout est bouleversé en France, mais elle n'a pas le temps de s'habituer et de comprendre ce qui se passe. Et elle va résister à ce mouvement d'évolution moderne, et au fond, elle va être balayée. C'est-à-dire que les gens ne vont pas comprendre sa résistance. Elle-même, moi j'ai vu des prêtres, quand je suis allé en 2004 pour les JMJ, qui me dit on est perdu, on ne sait pas comment il faut faire. Alors, de fait, en plus, il y a eu la révélation d'abus sexuels, malheureusement, ce n'est pas nouveau, dans cette église. Alors, les pensionnats en question accueillaient des enfants, notamment indiens. Il y avait, dans ces époques-là, dans ces pays-là, une volonté d'assimiler toute personne, notamment autochtone, indienne. Alors l'État, là-dessus, poussait beaucoup ce phénomène-là. Il fallait apprendre, bien sûr, la langue locale, la nouvelle langue, donc l'anglais ou le français. Il fallait s'habituer aux mœurs occidentales. Tout ça se faisait pas sans résistance de ce monde indien qui ne comprenait peut-être pas toujours. Je parle avec beaucoup de pincettes parce que je suis pas un expert sur ça. Et puis l'éducation était dure, c'est-à-dire que tant chez les Anglais où on savait corriger par la force, la violence des enfants, que même en France, il fallait un Don Bosco pour parler d'éducation préventive et par l'amour et la douceur. Beaucoup d'éducation se faisait par la violence. Et puis un enfant, à l'époque, même en France, était vu comme une sorte d'être vivant, marginal. On attendait que l'enfant soit adolescent pour vraiment le considérer. Tellement d'enfants mouraient en bas âge, on mourait beaucoup. Une mère qui avait 10 enfants, elle en perdait 4-5, c'était courant. Rappelez-vous la famille de Sainte-Thérèse de Lisieux, il y a eu 9 enfants, 4 sont morts en bas âge, c'était courant. Donc il y a eu peut-être un excès de violence par rapport à des enfants qui étaient considérés comme des enfants d'Indiens et peut-être pas aussi bien considérés que des enfants de colons. Après, aujourd'hui, on est scandalisé, bien sûr, parce que c'est un drame. Et l'Église essaie de prendre sa part de responsabilité dans la réconciliation. On ne peut pas admettre, mais autre époque, autre mœurs quand même. Voilà ce que je peux en dire.
Il nous reste une petite minute trente. J'aurais voulu qu'on parle du lectorat et de l'acolyta qu'on célébrera le 6 mai prochain. Ce sera pour la prochaine fois. Et je voudrais qu'on revienne sur votre avant-dernier message fraternel. Vous évoquiez notamment des cas de conversion de musulmans à la foi chrétienne. Vous donniez le témoignage d'Ali qui m'a beaucoup ému. Est-ce que vous pouvez nous
Oui, il y a un livre qui est sorti aux éditions d'Emmanuel sur 12 conversions de personnes de culture ou de familles musulmanes. En fait, on voit des musulmans qui sont des gens sincères, qui cherchent Dieu, qui le prient à leur façon, mais qui ont cette crainte, notamment devant la question de leur propre salut. L'islam affirme que nous sommes prédestinés soit à être sauvés, soit à être damnés. C'est inscrit dans l'enfant, dans le sein maternel. Et donc, il y a une crainte devant cette question-là. Et quand certains découvrent que Jésus au fond, il est Dieu fait homme, il est venu parmi nous pour nous sauver, que par sa mort, sa résurrection, il assume toute l'humanité et son péché, il le prend sur lui pour nous en libérer, et donc nous libérer de la mort qui était consécutive au péché. Alors ces personnes, d'un seul coup, sont très soulagées. Elles découvrent un amour infini de Dieu. Dieu est amour est une expression biblique, mais pas coranique. Et on a plutôt dans l'islam une vision d'un Dieu tout-puissant, ce qui est vrai d'ailleurs. Dieu est tout-puissant. Mais pour nous chrétiens, cette toute-puissance se manifeste par l'amour incroyable, l'amour tout-puissant de Dieu qui vient jusqu'à pardonner le pécheur et nous demande d'aimer même notre ennemi. Ça non plus, c'est pas dans le Coran d'aimer son ennemi. Voilà, c'est très difficile, bien sûr, il faut l'Esprit Saint pour ça. Et on voit des personnes qui cherchent Dieu et qui choisissent le Christ, qui vraiment font le choix du Christ et de l'Évangile et qui en manifestent leur joie, une nouvelle liberté. Voilà, c'est un beau recueil de témoignages.
Merci beaucoup, Monseigneur. Chers auditeurs et auditrices, Libre Propos, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle édition. En attendant, réécoutez la présente émission sur www.radiorancel.fr. À tout bientôt.